Dans le dernier épisode,
McLean révèle qu'il travaille pour le général Adet de l'armée française pour renverser le gouvernement du Canada.
Sans le savoir, McLean venait de se mettre la corde au cou.
David McLean? Non, je me nomme Jacob Felt. Au nom de Sa Majesté, vous êtes en état d'arrestation.
Un procès aura lieu 3 mois plus tard.
Veuillez-vous asseoir.
McLean, comme le public, croyait à un procès juste et équitable, puisqu'il semblait fait selon les règles.
J'appelle à la barre mon premier témoin, M. William Barnard. M. Barnard, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Dites, je le jure.
Je le jure.
Quels sont vos noms, prénoms, nationalités et lieux de résidence?
Mon nom est William Barnard. Pardon. Barnard William, sujet britannique, né à Deerfield, Vermont et habitant à Montréal.
Quand avez-vous vu le prisonnier pour la première fois?
En juillet 1795, aux États. Il m'avait raconté une histoire sur le projet de redonner le Canada à la France. J'ai ri de lui en pleine face.
Et vous avez revu le prisonnier au Canada?
Oui, l'année suivante. J'étais dans un poste de traite sur le bord de la frontière avec les États. Je chargeais un bateau quand, tout à coup, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom.
William Barnard?
Oui, c'est moi.
On m'a dit que vous étiez un homme de confiance, alors je reviens vous voir. Vous vous souvenez de moi?
Oui, oui. Vous êtes rendu au Canada?
Pour un travail. Mais promettez-moi de ne répéter à personne ce que je vais vous dire.
C'est bon, je vous le promets.
Je suis entré au Canada dans le but de préparer une révolution. Mais j'ai besoin d'aide. Si vous prenez une part active dans l'affaire, la France ne vous oubliera pas pour ce service, ce qui ne manquera pas de faire votre fortune.
Non, non, non. Pas question que j'embarque dans une affaire de même. Trop dangereux.
Je ne vous demande pas de combattre. J'ai simplement besoin de connaître l'état d'esprit des citoyens. Écoutez, l'automne prochain, une flotte de l'armée française débarquera à Québec. Pouvez-vous m'aider?
Je vais y réfléchir. Mais au lieu d'y réfléchir, j'ai tout raconté au juge Thomas McCord de Montréal.
J'ai vérifié avec le juge McCord qui corrobore les témoignages de notre témoin. Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin, votre honneur.
Avez-vous des questions pour le témoin Barnard, Maître Pike?
Oui, votre honneur. Monsieur Barnard, est-ce que l'honorable juge McCord vous a promis une rétribution en échange de ce service?
Objection, votre honneur! L'avocat de la défense sous-entend que mon témoin aurait été soudoyé. En quoi une telle question se rapporte-t-elle au chef d'accusation?
Objection retenue.
Merci.
Maître Pike, tenez-vous-en à l'acte d'accusation.
Mais le témoin déclare qu'il...
Maître Pike!
Oui, votre honneur. Je n'ai plus de questions pour le témoin Barnard, votre honneur.
La parole est à Maître Caron.
J'aimerais appeler à la barre M. John Black, de Québec.
Vous trouvez pas, M. Boisvert, que McLean aurait pu trouver mieux comme avocat de la défense?
En fait, il y en avait deux qu'on lui a imposés. D'abord, George Pike. Âgé de 21 ans, il avait obtenu sa licence de droit depuis 6 mois à peine. L'autre, George Franklin, s'est même excusé auprès du jury d'avoir à représenter l'accusé. Ce Franklin avait fait l'apprentissage du droit chez le procureur général Sowell. Imaginez, Franklin avait vécu chez Sowell comme un membre de la famille pendant les 5 dernières années.
Oh non!
Ni l'un ni l'autre des avocats n'a présenté une quelconque défense.
Monsieur Black, où étiez-vous quand le prisonnier vous a contacté?
J'étais chez moi, mais ce n'est pas le prisonnier qui m'a contacté. C'est le guide Frichette. Il est venu me trouver pour m'offrir du bois de chêne. mais peu de temps après, il a demandé à me parler en particulier. Une fois seul avec lui, il m'a demandé si j'étais bien M. Black, celui qui avait été emprisonné par le gouvernement. Je lui ai répondu oui.
Pour quel motif aviez-vous été arrêté?
Objection, votre honneur! Nous ne sommes pas ici pour faire le procès d'un honnête homme qui a payé sa dette envers la société.
Objection retenue. Messieurs les jurés, vous n'allez pas tenir compte de cette question. Poursuivez, Mr. Black.
Frichette m'a dit qu'un général français, caché dans le bois, désirait me voir. Intéressé à rencontrer ce général, je suis parti avec lui et par les sentiers, il m'a conduit au prisonnier.
Veuillez m'excuser d'avoir pris la liberté de vous envoyer chercher, Monsieur Black, mais ma présence dans la ville de Québec représente un trop grand risque pour ma personne.
It's okay.
J'irai droit au but. Ma raison d'être ici est de faire tomber le gouvernement britannique et de le remplacer par le gouvernement français, qui n'aurait jamais dû y être enlevé.
What?
Mais il me faut des gens comme vous, et ensemble, on gagnera la confiance de la population. On a déjà plus de 10 000 hommes aux États-Unis qui se sont joints à nous dans ce projet. Mais avant, on a besoin de complices à l'intérieur des murs de la ville, pour maîtriser la garnison.
Mais comment?
On remplacera des bouteilles de vin rouge avec d'autres bouteilles de vin contenant du laudanum. Voilà pourquoi j'ai pensé à vous. Un député anglais aura facilement accès au ravitaillement.
Mm-hmm.
C'est quoi exactement du laudanum?
C'est une teinture d'opium utilisée comme analgésique en Europe au 17e siècle.
Et qu'avez-vous fait par la suite?
Je l'ai invité chez moi pour la nuit. Il est arrivé vers les 9h et à 11h le même soir, une garnison a procédé à son arrestation.
Merci. Je n'ai plus de questions pour le témoin Black.
McLean avait une confiance aveugle en Black parce qu'on lui avait dit que ce député s'était fait arrêter pour s'être opposé au gouvernement.
Comme récompense pour l'avoir dénoncé aux autorités, Black recevra le canton de Dorset.
Je demande à entendre le guide, M. Charles Frichette. Monsieur Frichette, jurez-vous de dire la vérité, que la vérité, juste la vérité, dites « je le jure ».
Je le jure.
Monsieur Frichette, quand avez-vous rencontré le prisonnier pour la première fois?
En juillet 1796, à Saint-Jean. Le prisonnier a demandé à me parler en particulier. Il m'a dit que son nom était David McLean, qu'il y avait quelque chose d'important à me dire. Il a exigé de moi le serment de garder le secret. Fait que je lui ai prêté serment.
Qu'est-ce que le témoin vous a raconté?
Ben là, j'ai prêté serment.
Ici aussi, Monsieur Frichette, vous avez juré.
Objection, votre honneur. Maître Caron ne peut forcer un témoin à se perjurer.
Objection rejetée. Le serment de la cour a préséance sur n'importe quel autre serment. D'autant plus, Maître Pike, il s'agit ici d'un tribunal d'exception avec grand jury. Poursuivez, Maître Caron.
C'est le prisonnier qui vous a contacté?
Non, c'est Butterfield qui est venu me chercher. Il m'a emmené voir le prisonnier et qui m'a demandé d'y procurer un certificat signé par 8 citoyens qui disaient que les Canadiens n'étaient pas contents du gouvernement anglais puis qu'ils voulaient être sous la République française. Oh, je lui ai dit que je ne me risquerais pas à demander un certificat de même. Fait que le prisonnier m'a engagé comme guide pour l'accompagner jusqu'à Québec. À un moment donné, là, juste avant d'arriver, il m'a demandé de l'appeler Jacob Felt pour pas réveiller les soupçons. Il voulait pas aller en ville. Il préférait se cacher dans le bois, là, proche de l'Anse des Mers. Puis il m'a envoyé quérir Mr. Black. Ce que j'ai fait. Hein.
Merci, M. Frichette. Je n'ai plus de questions.
Le témoin est à vous, Maître Pike.
Je n'ai pas de questions, votre honneur.
Le prochain témoin est Thomas Butterfield.
Mais comment McLean peut croire à une défense équitable?
En fait, McLean ne sait pas trop à quoi s'en tenir avec ses deux avocats. Il ignore que leur défense est dictée par la couronne.
Monsieur Butterfield, Quand avez-vous vu le prisonnier pour la première fois?
En novembre dernier, à Swanton, dans le Vermont.
Pouvez-vous décrire à la cour le plan d'attaque que le prisonnier vous a partagé?
Oui. Il m'a dit qu'il avait un grand nombre d'amis au Bas-Canada sur lesquels il pouvait compter. Il voulait faire entrer plusieurs milliers d'hommes venant des États-Unis. Il avait prévu, au printemps suivant, de faire passer en secret dans des cages de bois une grande quantité d'armes et de munitions par la rivière Chateauguay. Ce moyen-là serait le moins suspect, parce qu'on penserait que ces cages de bois arriveraient de Haut-Canada. Il m'a demandé de me joindre à lui dans l'entreprise. J'ai dit oui.
Donc, Mr. Butterfield, vous vous êtes engagé dans cette tentative de coup d'État?
D'une certaine façon, oui. Je voulais en savoir plus sur le prisonnier et sur son plan.
Excellente question, Maître Peck. Ainsi, vous soutenez aussi la thèse du coup d'État et par conséquent, l'accusation de haute trahison.
Objection, Votre Honneur. Ma question était pour le témoin et non en rapport avec l'accusation.
Objection rejetée. Poursuivez, Mr. Butterfield.
Osgood ne laisse rien au hasard. Sitôt que l'avocat de la défense s'objecte sur un point, non seulement le juge refuse d'entendre les objections de la défense, mais il accepte toutes celles de la couronne. La toile se tisse autour de McLean. Il n'aura pas d'échappatoire.
Ben, finalement, le prisonnier m'a dit qu'il allait revenir au mois d'avril suivant.
Monsieur Butterfield, selon vous, quelle est la nationalité de l'accusé?
J'ai toujours cru qu'il était citoyen américain.
Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin Butterfield.
J'aimerais faire venir à la barre mon dernier témoin, M. Elmer Cushing.
Voilà votre homme.
Le futur propriétaire du canton de Shipton.
M. Cushing, depuis combien de temps connaissez-vous le prisonnier?
J'ai connu David McLean quand...
Monsieur Cushing, tenez-vous-en au terme de accusé ou prisonnier, je vous prie.
Excusez-moi. Donc, j'ai connu le prisonnier il y a environ 11 ans dans le Rhode Island. Mais je l'ai perdu de vue quand je suis venu vivre au Canada.
Messieurs les jurés, je tiens à faire remarquer que les deux derniers témoins, Monsieur Butterfield et Cushing, ont déclaré que l'accusé était citoyen américain.
Maître Pike, c'est une objection?
Non, Votre Honneur. Je tenais simplement à souligner ce
c'est
fait.
C'est noté, Maître Pike, c'est noté, merci.
Monsieur Elmer Cushing, vous avez informé le gouvernement des projets de l'accusé en novembre dernier. C'est exact?
Oui, j'en ai fait mention à Maître Stephen Sewell, qui, lui-même, on a avisé son frère, Jonathan Sewell, ici présent.
Il y a donc près de 6 mois de ça. Et vous jurez n'avoir reçu aucune forme de rémunération, ni attendre aucune récompense en échange de votre témoignage.
Alors, disons que ils m'ont dit...
Objection, Votre Honneur! Mon collègue semble mettre en doute la bonne foi d'un témoin de la couronne.
Objection retenue. Vous y posez des questions en lien avec l'accusation.
Il me semble d'une importance capitale de faire connaître ce fait au jury. S'il y a une promesse
Maître
de...
Maître Pike, vous n'êtes pas ici pour faire connaître des faits, mais pour interroger les témoins. Poursuivez, Maître Caron.
Je comprends ce que vous disiez à propos de ce procès.
Avez-vous remarqué le silence de Franklin? Pas une seule question. Aucune objection. Rien.
Merci, monsieur le juge. Monsieur Cushing, dites à la cour qui devait fournir les armes et de quel type d'armes il s'agissait.
Des armes à feu, des fusils et peut-être des canons. Ces armes et les munitions devaient être fournies par la France.
Directement au Canada?
Non, par la voie des États-Unis d'Amérique.
Est-ce que le prisonnier vous a fait quelques promesses pour prendre une part active dans l'affaire?
Oui, il m'a même promis une position honorable au sein de l'armée ou dans le service civil français. Je n'avais qu'à demander.
Merci, Monsieur Cushing. C'était mon dernier témoin, votre honneur.
Maître Pike, avez-vous un témoin à faire entendre?
Non, votre honneur.
Alors, vous comprenez l'importance de ce procès pour les juristes?
Mais oui.
C'est exactement le contraire d'un vrai procès. Aucune véritable preuve, que des témoignages contre McLean. Et aucun témoin pour la défense.
Est-ce que le prisonnier a quelque chose à dire pour sa défense?
Oui, votre honneur. D'abord, que je suis très reconnaissant envers la Cour de nous permettre, à mes avocats conseillers et moi-même, de prendre la parole. Je ne suis pas habitué à des situations comme celle-ci. Je dirai simplement à la Cour que je sens au-dessus de moi comme une nuée épaisse. Mais je suis convaincu qu'elle se dispersera en pluie légère après la délibération des jurés.
Alors, je demande aux jurés de bien vouloir se retirer pour délibérer sur le sort du prisonnier et de rendre à la Cour un verdict unanime, sans possibilité d'appel. Si vous déclarez le prisonnier non coupable, celui-ci sera libre. Si vous le déclarez coupable, la sentence par haute trahison sera la peine de mort. La Cour est adjournée le temps de délibération.